eh bien, on pensait bien que, justement, les Américains allaient déposer une plainte. C'est fait. Alors, on va parler de ça avec Michel Vincent, économiste en chef au niveau du Conseil de l'industrie forestière. Bonjour.
Bonjour.
Pas une surprise, mais quand même, donc, c'est un nouveau bras de fer qui s'annonce entre le Canada et les États-Unis.
Tout à fait. Pas une surprise, comme vous le dites. Par contre, on s'attend à ce que ça puisse être long. Si on suit au dernier litige, ce qu'on appelle dans notre jargon « Lumber Force », c'était le quatrième litige qui a duré 5 ans. Alors là, on peut s'attendre à n'importe quoi qui peut s'approcher de ça.
Bon, cette crise du bois d'œuvre, d'abord parlons, qu'est-ce que c'est le bois d'œuvre? Expliquons aux gens.
Bon, premièrement, la définition du bois d'œuvre, je vais vous donner la définition que vous et moi, on aurait là, c'est tout morceau de bois qui sert dans la construction résidentielle ou non résidentielle. Parlons du résidentiel, vous construisez votre maison, là, vous mettez des 2x4 dans les murs, dans les plafonds, dans le toit. Tout morceau de bois qui sert à construire une maison, c'est du bois d'œuvre. Mais par contre, les Américains ont une vision beaucoup plus large, puis ils vont chercher d'autres produits dans leurs plaintes. Probablement à raison de pression politique qu'ils reçoivent, mais par contre, la notion de bois d'œuvre est plus large dans le dossier américain que dans la vraie vie.
Alors, sur quel aspect les Américains basent leurs plaintes? On parle beaucoup là, de questions de subventionner l'industrie forestière. Ouais, expliquez-nous, là.
Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains, ils ont la possibilité de nous accuser de compétition déloyale, accuser nos gouvernements de subventionner l'industrie forestière. Ils peuvent le faire parce que 90 % du bois est de propriété publique au Canada, puis on ne fait pas de différence au Québec. Vous êtes différent dans votre région, mais on y reviendra plus tard. Donc, en accusant le Canada de subvention ou en accusant les compagnies forestières canadiennes de pratiques déloyales parce qu'ils achètent leur bois à un prix trop faible, ben, ça leur permet de nous imposer, de partir en guerre, de nous imposer une taxe de 20, 25, 30 %, on ne sait pas encore ça va être quoi. Et ça, ben, c'est la 5e fois qu'ils le font, là. Ils l'ont fait 4 fois avant, puis à chaque fois, ils ont perdu à plate couture, ils ont perdu complètement, parce que quand ils nous imposent cette taxe-là, vous comprenez que le Canada ne reste pas les bras le long du corps. Le Canada va se plaindre à l'OMC, il va se plaindre à l'ALENA, il va même se plaindre, il porte plainte même aux cours américaines de commerce international. Et par exemple, en 2006, on a gagné sur tous les fronts, absolument tous les fronts. Alors, les Américains ont aucune raison légitime de prétendre qu'on est subventionné puisqu'ils n'ont jamais été capables de le démontrer en 35 ans. Et depuis ce temps-là, par exemple, au Québec, on s'est doté d'un régime forestier qui est encore plus orienté sur les marchés, sur les prix des marchés, que ce qui était le cas avant.
Oui, parce que ce qu'on a fait au Québec, on parle ni plus ni moins là, chez nous de vente aux enchères du bois, je crois. Hein?
Oui, en fait, on vend 25 % du bois de la forêt publique aux enchères. Donc, c'est vraiment une détermination du prix aux enchères. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information qu'on reçoit sert est appliquée sur le reste du 75 % du bois public. Donc, 100 % du bois de la forêt publique est vendu soit directement aux enchères ou soit à partir du prix du marché que les enchères nous donnent. Donc, si un lot forestier est vendu à 15 $ du mètre cube, ben, le lot à côté, qui est identique, va être aussi vendu à 15 $ du mètre cube. Puis si ça monte à 20, ben, le lot à côté va être à 20 aussi. Le 75 % restant va suivre tout le temps le prix des enchères. Donc, on n'a aucun doute à cet effet-là. Le 100 % du bois de la forêt publique provient d'un prix de marché, puis avec le bois de la forêt privée, ben là, c'est une vente entre deux parties indépendantes. Ça aussi, c'est une négociation entre deux entreprises. Alors, on peut affirmer sans gêne, sans le moindre doute qu'au Québec, 100 % du bois est vendu à un prix de marché, point. On a un système d'enchères qui est le gouvernement du Québec est allé voir ce qui se faisait aux États-Unis, puis dans plusieurs États, il y avait des bonnes choses, des mauvaises choses. Il a pris juste les bonnes choses qu'il y avait dans tous les États américains, puis il a fait un système d'enchères qui se compare avantageusement à peu près à tout ce qu'on voit aux États-Unis.
Alors concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire, l'impact de tout ça pour notre industrie forestière chez nous?
Il va s'agir, c'est l'imposition d'une taxe à l'importation pour les États-Unis. Donc, une entreprise, par exemple, qui vend son bois sur le marché de Boston, par exemple, qui est une destination privilégiée pour vos entreprises, bien, vos industriels, s'ils vendent le bois à 400 $ du mille-pieds, par exemple, avec une taxe de 25 %, le calcul est assez simple à faire. Il y a des petits détails, là, parce que la partie de transport sur le territoire américain est retirée, là, mais grosso modo, si le prix de vente est à 400 $ en arrivant aux lignes américaines, la valeur du chargement, bien, l'industriel, pour pouvoir entrer en territoire américain, va devoir payer une taxe de 100 $ Présentement, les entreprises font peut-être, si on a des marges de profit de 20-25 $ du mille-pieds, c'est à peu près ça, vous comprenez qu'on ne peut pas supporter une taxe de 100 $ avec les prix qu'on a actuellement. Alors, c'est là que ça va faire extrêmement mal, et ça, cette taxe-là va être en place tant qu'on n'aura pas eu gain de cause de façon déterminante, de façon définitive. C'est ça qui peut prendre 4 ou 5 ans. Donc, tous les dépôts que les entreprises vont avoir payés aux taxes vont nous être remboursés dans 4 ou 5 ans. Mais l'idée, c'est de pas faire un chèque à une entreprise qui est en faillite. Ça ne sert plus à rien, là. Ça la fera pas revivre, cette entreprise-là. Alors, ce qui est important, c'est d'être capable de toffer, comme on dit, là, pour se rendre au remboursement des dépôts puis continuer. Et c'est là que ça va faire mal, puis c'est là qu'on pense que des joueurs passeront pas au travers.
Bon, alors oui, notre marché à nous, donc traditionnellement, c'est vraiment les États-Unis.
Hein. Oui, tout à fait. Une grosse proportion de votre production s'en va aux États-Unis, et puis le reste demeure au Québec. Il y en a probablement une proportion aussi qui va dans les provinces maritimes, comme par exemple, surtout en Nouvelle-Écosse, où les prix ont été bons, la demande a été bonne dans les dernières années. Mais vous avez un marché qui est essentiellement Québec maritime, mais la grosse partie de votre bois s'en va aux États-Unis.
Comment l'industrie pourrait-elle s'en sortir? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour amoindrir justement cet effet-là d'une surtaxe là, de 20 ou 25 %?
Premièrement, il y a une partie de la taxe qui devrait être absorbée par les marchés. On espère que ce soit le plus haut possible, mais sur le territoire américain, il y a une partie du 25 % ou du 100 $ du mille-pieds qu'on va essayer de refiler aux consommateurs américains dans un premier temps.
OK, donc d'aller vendre notre bois là-bas plus cher.
Oui, tout à fait. Puis l'industrie américaine qui porte plainte, ils comptent là-dessus aussi. Là. Une des raisons pourquoi ils portent plainte, c'est pas parce qu'ils pensent qu'ils ont raison qu'on est subventionné, c'est parce qu'ils savent qu'en faisant ça, on va avoir tendance à refiler une partie de la taxe aux consommateurs, aux acheteurs américains, mais comme eux n'ont pas de taxes à payer parce qu'ils restent sur leur territoire, bien, ils vont juste profiter de ces prix supérieurs-là. Là. Alors, c'est pour eux, là, c'est gagnant. Même si à la fin, ils vont perdre, dans 4 ou 5 ans, ils vont perdre devant les tribunaux, puis ils vont devoir rembourser les dépôts, mais ils auront profité d'une période de 3, 4, 5 ans de prix supérieurs en raison de cette taxe-là. Parce qu'il faut garder à l'esprit que le Canada remplit le tiers de la consommation américaine. Alors, quand un fournisseur qui correspond au tiers de toute votre consommation domestique a un prix de 25 %, a un coût de 25 % plus élevé, bien, vous comprenez qu'il va essayer de passer ce coût-là chez les utilisateurs. Et on va le réussir jusqu'à un certain point, mais jusqu'où on va être capable de refiler cette taxe-là, c'est certainement pas à 100 %, ni non plus à 50 %. On va être capable d'en refiler une partie. Mais cette augmentation de prix-là en territoire américain va profiter immanquablement aux producteurs américains. Puis c'est une des raisons principales pour laquelle ils vont en litige présentement.
Bon, par le passé, dans les autres crises, le gouvernement fédéral était au rendez-vous pour aider l'industrie forestière. J'imagine qu'on fera appel encore une fois à cette aide.
Une entreprise, présentement, peut aller à la banque puis de dire à son banquier, est-ce que tu peux financer mes dépôts? Est-ce que je peux ouvrir une marge de crédit pour financer mes dépôts que je vais faire? Je sais que je vais les revoir. Alors, le financier, lui, il est un peu réticent à ça présentement à la banque parce qu'il sait, est-ce que la compagnie va être capable de passer au travers? Et deuxièmement, est-ce que c'est sûr qu'on va gagner le litige? On le pense, on est sûr à 99 %, mais tant que c'est pas fait, il y a toujours une marge de risque. Alors, les banques sont un peu réticentes à prêter de l'argent pour financer des dépôts. Ce qu'on demande au gouvernement canadien, c'est garantissez-nous ces dépôts-là, de sorte que l'industriel va pouvoir se présenter à la banque, financer les dépôts à un taux d'intérêt qui est acceptable, un taux d'intérêt qui va leur permettre de vivre. Présentement, les banques vont s'ils financent un taux qui est démesuré, bien, c'est évident que les entreprises ne pourront pas supporter ça. Mais s'ils peuvent se financer à un taux d'intérêt raisonnable, avec une lettre du gouvernement fédéral qui confirme qu'ils vont garantir ces dépôts-là, bien, les compagnies vont pouvoir financer leurs dépôts le temps que ça dure. Quand Lumber 5 va être gagné, parce qu'on sait que ça va être gagné, les dépôts vont leur être remboursés, ils vont rembourser la banque et la lettre de garantie de prêt va disparaître. Ça devrait être à somme zéro pour le gouvernement canadien.
Donc, il faut absolument une intervention pour sauver l'industrie, là.
Absolument, ça prend une intervention parce que on n'ira pas très, très loin dans Lumber 5. Rappelons-nous qu'en 2001, quand le dernier litige a commencé, les entreprises étaient en bonne santé financière, nos usines étaient bien équipées, des équipements très modernes. Ça fait présentement 10 ans là, que on passe une période d'une ça fait une dizaine d'années depuis le pic des années 2005 où on a construit beaucoup de maisons. Depuis ce temps-là, ça a chuté et on a passé 10 ans là, de vaches maigres dans l'industrie du sillage partout en Amérique du Nord. Alors, on n'est pas dans une situation financière qui nous permet de rentrer dans le 5e litige de façon aussi agressive qu'on a pu le faire en 2001.
Donc, il y a des risques plus élevés cette fois-ci, là.
Ben, des risques de dommages collatéraux, là, de fermeture, puis d'usines ou de faillites ou de fermeture de corps de travail qui sont beaucoup plus grands, effectivement.
Combien d'emplois au Québec et en Gaspésie au niveau de la forêt, comme ça, de l'industrie forestière, de la transformation?
Bien, on parle à peu près au niveau des emplois directs au niveau du sillage. Là. Par exemple, si on parle des emplois de récolte en forêt, des emplois en scierie de résineux, on parle d'à peu près 20 000, 22 000, 25 000 emplois. Là. Alors, ces emplois-là, sans dire que tous ces emplois-là sont à risque, le secteur forestier au complet au Québec est ébranlé là, depuis vendredi par la mise en place par le dépôt de cette plainte-là. Parce que les scieries au Québec, c'est la porte d'entrée du bois dans toute l'industrie forestière, que vous soyez dans l'industrie du panneau, des pâtes et papiers ou dans n'importe quoi, la récolte se fait puis s'en va directement vers les scieries. Puis ce sont les scieries qui redistribuent les produits, les sous-produits vers les différents autres utilisateurs. Donc, la fermeture d'une scierie, ça a des effets en amont, ça a des effets en forêt et ça a des effets en aval aussi dans le reste de la chaîne de production, dans le reste de la chaîne forestière au Québec. Alors, et puis, ça a aussi la particularité d'être situé en région. Il n'y a pas beaucoup d'industries forestières dans le centre de Montréal, le Nid à Québec. C'est des industries qui sont situées en région. Le secteur forestier occupe l'ensemble du territoire. Mais quand on ferme une scierie, ben vous comprenez que les effets sur la communauté qui possédait cette scierie-là sont dévastateurs. C'est comme si on perdait la moitié des emplois sur l'île de Montréal. Là. Ça serait dévastateur, puis on en parlerait, mais c'est la même chose à plus petite échelle que toutes ces communautés-là peuvent vivre avec la fermeture d'une scierie. Puis on l'a vu, là, ce ne sera pas un précédent. Alors, c'est très inquiétant de voir ce qui s'en vient.
En conclusion, une autre crise qui s'amorce au niveau du bois d'œuvre. Nos industries sont peut-être un peu plus fragiles. Il faudrait donc s'attendre à avoir de l'aide aussi du fédéral pour les soutenir le temps que ce soit réglé à nouveau. Alors, Michel Vincent, économiste du côté du Conseil de l'industrie forestière, merci.